Des clés pour vivre avec Nathalie Cardon.
Des clés pour vivre. Cette semaine, je reçois au micro et pour intervenante Marielle De Vera, productrice reconnue de télévision. Vous avez participé à ces grands programmes de télé-réalité sur TF1 jusqu'en 2013. Bonjour Marielle De Vera.
Bonjour Nathalie.
Ravie de vous recevoir. Alors c'est une histoire d'amour, c'est l'histoire de votre vie, c'est l'histoire d'une femme. Quelques minutes sur un petit peu votre histoire et vos débuts de vie. Quels étaient vos rêves d'enfant, Marielle De Vera? Vos rêves d'enfant?
Ah là là, mes rêves d'enfant étaient faits de célébrités. Je rêvais de chanter, je rêvais de devenir une étoile sur cette terre, d'être ultra célèbre et populaire. Voilà.
Désir de briller?
Un désir de briller, mais un truc de dingue.
Désir d'être reconnu.
Un désir d'être reconnu, populaire. Mais ce que pensent beaucoup tous les jeunes aujourd'hui, c'est-à-dire eux, leur but c'est de devenir célèbre, c'est de faire de la télé coûte que coûte.
Alors on y reviendra sur ce parcours qui est le parcours de votre vie. Votre métier, c'est votre passion. On y reviendra. Derrière ces rêves de popularité, de briller, d'étoile, c'est un désir d'amour.
Alors,
désir d'être aimé.
J'ai eu cette chance d'être très très aimée dans une famille très unie et aimante. J'ai eu cette chance d'avoir une enfance très heureuse. Est-ce que c'est un désir d'amour? Peut-être. J'avais besoin de toujours plus. Mais je pense que c'était aussi un désir de me réaliser. J'adorais faire des spectacles. J'ai fait le conservatoire de théâtre. Je chantais. C'était aussi un désir d'être reconnue pour un talent. Plus que peut-être pour aller chercher de l'amour. C'est assez curieux, mais c'est comme ça.
Vous avez fait une rencontre et nous enregistrons ici près d'une grotte. Cette grotte, c'est la grotte de Massabielle à Lourdes, où est apparue une femme, la Vierge Marie, à une petite Bernadette. Vous avez vécu un tournant dans votre parcours et c'était en mai 2013, de cette femme qui s'appelle l'Immaculée Conception, qu'avez-vous reçu?
J'ai reçu la vérité en pleine face. Et la vérité en pleine face, c'est agréable au long terme, mais c'est peut-être un peu désagréable à court terme. Donc je pense que quand on est d'un coup, on reçoit une conversion fulgurante comme celle que j'ai reçue, je pense que c'est comme ça des torrents de vérité, agréables ou pas, que vous recevez, et après il faut pouvoir les gérer.
Cette vérité, vous émettiez quoi sur cette vérité?
En fait, ça m'a recadré sur le sens de la vie, sur pourquoi est-ce qu'on est sur Terre. Et qui devraient être des questions qu'on se pose au quotidien, mais pris justement par les problèmes et les petits soucis du quotidien. Alors les soucis matériels, se rendre à un rendez-vous, prendre une voiture, la garer, payer ses impôts, aller au travail. Ben en fait, on s'éloigne de l'essentiel. Et d'un coup, je me suis recentrée sur l'essentiel, alors que je pense que ça faisait à peu près 25 ans, même plus que je n'y avais absolument jamais pensé.
Vous êtes issu d'une famille catholique.
Oui.
Vous avez aussi des souvenirs aussi d'école catholique.
Oui.
Oui, de bons souvenirs, de moins bons souvenirs.
Alors, j'ai eu une enfance heureuse, je viens de le dire. C'était pas des mauvais souvenirs, mais c'était. J'ai pour habitude de dire que je confondais les cours de catéchisme avec le français ou les maths. Donc, on me demandait d'apprendre une prière ou le sens d'une date par cœur. Je le faisais, et puis point final. Mais il n'y avait pas de réflexion sur la vie réelle, il n'y avait pas de réflexion sur ma vie. Pour moi, le Nouveau Testament, c'était un livre vieux et je ne voyais pas l'intérêt ni de le lire, ni de l'apprendre, ni de le comprendre. Donc certainement, c'est moi qui avais mal compris les choses. J'espère que beaucoup d'autres élèves ne l'ont pas reçu comme je l'ai reçu moi, mais en tous les cas, c'est comme ça que je l'ai reçu, de façon très superficielle. Et donc du coup, je m'ennuyais dans les cours de catéchisme et forcément, après, quand vous quittez le système scolaire, vous vous éloignez aussi de la religion. C'est-à-dire que ça devient quelque chose pour faire plaisir à ma maman et à mon papa au moment de Noël, le jour de Pâques. Et puis c'est fini, c'est terminé. Moi je dis, pour moi Dieu c'était le Père Noël, c'était Zorro, Goldorak. Je l'appelais quand il y avait besoin de réussir un examen ou de, je sais pas, un truc de santé. Mais c'était pas profond, c'était presque comme un gris-gris en fait.
Ce sont 45 minutes que vous avez très précisément vécu devant cette grotte Massabielle à Lourdes. 45 minutes de cœur à cœur, 45 minutes où vous avez été interpellé, dérangé par cette statue.
De plâtre.
De plâtre.
Comme ça que je l'appelais.
Ouais. Ouais.
Elle n'est pas en plâtre, hein, en plus. Hein.
Mais c'est comme
mais
ça moi, que vous l'appelez
moi,
dans votre livre.
Mais
je reviendrai aussi sur ce livre témoignage que vous avez écrit, paru à Mediapol, La télé-réalité Lourdes, Marie et moi. Donc on revient à Marie et on revient à cette grotte Massabielle qui est tout juste à quelques mètres des studios de Présence Lourdes.
En fait, j'ai été frappée par des questions tellement basiques que ça en est presque risible avec du recul, mais surtout des questions qui étaient... qui appelait en moi une vérité, des réponses vraies donc, et que j'étais absolument incapable de donner parce que je n'avais pas réfléchi à ça depuis, je pense que peut-être jamais j'avais réfléchi à ça. Peut-être petite fille, hein. Je me souviens que petite fille, des fois je me disais qu'est-ce qu'on fait sur cette terre, qu'est-ce qu'il y a à l'extérieur de la terre, voilà ça je me souviens que je m'étais posé deux, trois questions comme ça, mais j'avais 6 ans, vous y mettez là, j'en ai 46 donc... Ça faisait, au moment où ça s'est passé, à la grotte de Massabielle, ça faisait 41, 42 ans que je me posais plus de questions. Donc du coup, les questions, elles étaient simples pourtant, hein, mais elles n'étaient pas posées de façon agréable. Hein. C'était sur un ton un peu impératif. C'était pas cucu la praline, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que c'était, qu'as-tu fait pour les autres? Pas grand-chose.
C'est une confession, là. Et c'est voilà. Vrai
Bah oui, enfin, je l'ai diverti, mais je gagnais de l'argent avec. Donc, je pense pas que ce soit un don de ma présence. Je pense avoir jamais fait d'énormes péchés. J'ai jamais tué quelqu'un. J'ai jamais voulu faire du mal de façon volontaire. Ça c'est sûr. Mais qu'as-tu fait pour les autres? Rien, en fait. Donc, qu'est-ce que l'amour? Bah, je sais pas, en fait. C'est quoi l'amour? Quand on réfléchit vraiment à cette question, définir l'amour, c'est pas si simple. J'ai essayé de m'exercer pour mon livre et je vous avoue que c'est une réponse très très compliquée. C'est quoi l'amour? Qu'est-ce qu'il y a après la mort? C'est quoi la mort? Ben, en fait, pour moi, ça s'arrêtait. Aujourd'hui, je suis convaincue qu'il y a un homme qui s'appelle Jésus qui est venu sur Terre justement pour nous expliquer qu'on n'est là que pour après, en fait.
Vous avez parlé de péché. Qu'est-ce que le péché pour vous?
Ça, c'est aussi très... Tout dépend de l'angle sous lequel on se positionne. Le péché de l'un va peut-être pas être le péché de l'autre, en fonction de son passé, de son histoire, de son vécu. Et c'est pour ça, je pense, qu'il n'y a que Dieu qui peut juger les uns ou les autres. Je pense qu'il y a deux choses. Il y a le bien et le mal. Et que le bien et le mal sont relatifs pour tout. C'est-à-dire que donc c'est son bien à soi et son mal à soi. Ce qui n'est pas simple à comprendre. Mais le bien, c'est... Pareil, j'ai essayé vraiment de le définir et je me suis dit que c'était être heureux de rendre heureux. Dire que tout ce qui n'est pas être heureux de rendre heureux, bah du coup, est mal. Ce qui n'est pas simple. Donc que ce soit dans la vie privée, dans les affaires, dans le... Est-ce que à la fin, on peut se dire « je suis heureuse d'avoir rendu heureux » ou quelqu'un, ou un groupe de personnes, ou pour un projet, ou pour... voilà. Et je pense que c'est ça, en fait, le bien. Ce qui fait que, du coup, ça devient relatif en fonction et des pays et de plein de choses.
Alors, aujourd'hui, vous êtes une femme heureuse. Hein, vous en êtes où avec le bonheur et la joie?
Alors, ça, c'est une question très compliquée, parce que je pense que je viens de passer la pire année de ma vie. comme quoi, être croyant, ça peut être dur aussi, puisque je crois qu'il y a une autre présence qui est moins agréable, celle-là, et qu'à partir du moment où on se révèle en tant que croyant, on peut en prendre plein la figure. Et c'est un petit peu ce qui m'est arrivé cette année. Voilà. Et je pense qu'il s'est absolument déchaîné, et que j'en fais les frais. Mais du coup je suis vraiment dans un combat terrible hein, depuis le mois d'octobre de l'année dernière, de 2018, mais un combat qui ne fait que raffermir ma foi et qui dans le combat ça peut être difficile, c'est difficile parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens et notamment sur Lourdes qui vivent des combats, que ce soit physique, psychologique ou moral, mais dans le combat ce qui est formidable, c'est d'être accompagné de Dieu. Et ce qui est peut-être terrible, c'est parfois de se dire « Dieu ne pense pas à moi. Dieu m'a laissé tomber. » Et je ne peux pas vous mentir, ça, c'est une idée qui m'a traversé l'esprit plusieurs fois cette année. Dieu m'a laissé tomber. Je fais ça pour lui, mais il m'a laissé tomber.
Alors, je ne vous laisse pas tomber. Et le bon Dieu ne vous a pas laissé tomber. Marielle de Vera, je rappelle que vous avez écrit un livre témoignage qui est le parcours de votre conversion. Il s'intitule « La télé-réalité lourde, Marie et moi ». Et c'est le récit de votre conversion paru aux éditions Mediapol. Je vous propose de vous retrouver. On ne vous abandonne pas. Dès demain, à la même heure, et restez sur ce champ de bataille pour vivre ce bon combat qui est le combat de la foi. À demain.
Merci, à demain.